Alors on va poursuivre cette série sur les Éphésiens. Aujourd'hui on va voir les versets 14 à 21 d'Éphésiens 3. Dans les précédentes prédications sur les Éphésiens que vous pouvez réécouter sur notre site internet, on a vu les incroyables bénédictions qui se trouvent en Jésus-Christ, on a vu aussi la puissance et la plénitude qu'on trouve en Christ, la puissance de la grâce de Dieu en Christ, la réconciliation qu'on peut avoir aussi et trouver en Christ, dans le fait aussi qu'il brise des barrières afin de pouvoir construire l'unité, cette unité tellement précieuse, tellement importante. Et dans le chapitre d'Éphésiens 3, 1 à 13, on a vu aussi la révélation du mystère de l'Évangile. Et ce mystère concerne l'inclusion de toutes les nations en Christ, aussi l'insondable richesse de Jésus-Christ et le rôle de l'Église dans la manifestation de la sagesse de Dieu à toute la création céleste. On est appelé à partager cette bonne nouvelle avec le monde, à vivre en unité aussi, à être des témoins de la grâce de Dieu. Tout un programme. Vous pouvez relire ce livre des Éphésiens qui est riche. Et c'est vrai qu'on est des agents de la réconciliation dans un monde qui a désespérément besoin de l'amour du Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 13, on avait vu une vérité profonde, où je lis juste ce verset, « Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » L'apôtre Paul aborde dans ce livre aussi aux Éphésiens bien cette connexion entre les Juifs et les non-Juifs. Avec le peuple d'Israël, il dévoile aussi comment, grâce à Jésus, une union nouvelle a été tissée. Et Paul nous fait réaliser que l'Évangile, ce n'est pas une substitution au peuple d'Israël, au peuple hébreu, au peuple juif, mais une communion aussi dans cette grâce. On est unis en Christ et leur Messie est devenu aussi notre Messie. Le Messie du peuple d'Israël est devenu le nôtre. Quelle grâce! Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi maintenant j'aimerais parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Une des affirmations les plus courtes dans la Bible, c'est « Dieu est amour ». Dieu est amour. Le texte de 1 Jean 4, je lis à partir du verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Vous aimez ? Alors vous êtes né de Dieu. Verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Waouh ! Un programme, hein ? Un programme. Dieu est amour, ce qui veut dire que l'amour, ce n'est pas juste une simple caractéristique de Dieu. C'est bien plus. Dieu est amour. Autrement dit, sa nature, sa personnalité, c'est l'amour. Ou encore, si je peux me permettre, la matière dont Dieu est composé, c'est l'amour. Dieu est finalement la définition de l'amour. Il n'est pas juste rempli d'amour, et c'est très différent. Il est la définition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre lui et l'amour. C'est toute sa personne, c'est lui-même. Dieu est amour. Et je le répète encore, en réalité, ce n'est pas que Dieu soit rempli d'amour. L'amour, c'est lui. C'est lui. Et c'est pourquoi la Bible dit « Quiconque aime connaît Dieu et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » C'est ce qu'on a lu. Alors, ce mot « amour » dans le monde, il a pris peut-être d'autres valeurs, d'autres significations. Mais si on revient au texte biblique, on se rend compte de l'importance d'avoir cette nature, cette essence de Dieu, de Jésus-Christ dans notre vie. En langage clair, lorsque nous n'aimons pas, nous ne connaissons pas Dieu. C'est ce que la Bible va dire. Il y a d'autres textes qui disent comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois finalement. C'est très fort. Si vous voulez bien comprendre, même si Dieu vous parlerait tous les jours ou que vous ayez les meilleurs dons et révélations de Dieu parmi les hommes, si l'amour n'est pas en vous, qu'en réalité, eh bien, vous n'avez pas encore réellement connu le Dieu que vous professez et que vous êtes censé servir. 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour de Dieu, et il y a 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 qui nous parle des dons spirituels et autres, puis au milieu il y a le jambon ou ce qu'on veut, ce que vous aimez, on n'est pas tous, peut-être le fromage, ou il y a l'amour pour dire, ben, finalement tu peux avoir tous les dons, mais si te manque l'intérieur, finalement t'es vide. L'extérieur, c'est joli, il y a le pain du dessus, le pain du dessous, mais à l'intérieur, c'est une coquille vide. Et en Corinthiens 12, 13 et 14, et je ne crois pas que c'est un hasard, qu'il y ait ce chapitre 13 au milieu qui nous montre l'importance aussi. Si on le connaît vraiment, eh bien on sait que Dieu est amour. Pas d'abord puissance, ni justice, ni vengeance, ni autre chose. Si ce Dieu d'amour habite en nous, eh bien, on est rempli, nous aussi, de cet amour. Waouh! Mais je crois que pour s'en rendre compte, il faut l'expérimenter. Il faut expérimenter cet amour de Dieu. C'est un concept, peut-être vous l'avez lu, vous l'avez entendu, mais est-ce que vous l'avez vécu? Et pour ça, vous pouvez faire tous les séminaires que ce monde chrétien vous offre. Si eh bien, vous ne passez pas du temps dans la présence de Dieu, vous n'allez jamais expérimenter. Vous pouvez apprendre des choses sur quelqu'un, comme si vous voyez à la télévision tel joueur de tennis ou tel footballeur ou autre, puis vous avez l'impression de le connaître parfaitement ou de connaître cette personnalité publique parfaitement. Finalement, tant que vous ne passez pas du temps avec elle, vous ne connaissez mais rien du tout de cette personne. Peut-être qu'il est tout autre que ce que les médias veulent dire ou de ce qu'ils montrent publiquement. Ou tel influenceur, maintenant c'est à la mode, les influenceurs ou les influenceuses. Ben là aussi, ils montrent quelque chose qu'ils veulent bien montrer de leur personnalité, de leur vie, mais on ne connaît rien de leur vie parce qu'on n'a pas passé du temps avec eux. De la même manière, on peut connaître que Dieu est amour, que Dieu est ceci, que Dieu est puissance, que Dieu guérit. Mais si on n'a jamais passé du temps dans sa présence réellement, concrètement, on a besoin d'être saisi. Pour ça, il n'y a que le Saint-Esprit eh bien, qui va rendre vivant ça. Dieu est amour et veut l'amour entre les hommes et particulièrement entre ses enfants. Sachez-le aussi, le Seigneur a une joie immense lorsqu'il voit ses enfants en paix, en harmonie et en s'aimant. C'est pour ça que c'est un défi aussi. C'est un défi de s'aimer. Pour X ou Y raison, finalement, on va se diviser, on va se chamailler, on va se séparer. Finalement, on va devenir des chrétiens d'Internet. Là, il n'y a plus de problème d'amour. J'aime mon écran, j'aime le prédicateur qui me prêche derrière son écran, mais je ne connais rien de lui. Malheureusement, on veut trop souvent plus avoir raison qu'aimer. On cherche plus son intérêt personnel que l'intérêt du groupe ou des autres. Et c'est pour ça que je vous encourage maintenant à lire avec moi Éphésiens 3, 14 à 21, qui nous donne quelques clés, quelques pistes pour avancer. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Waouh ! Il y a du job, hein ? Enracinés, vous imaginez, vous avez des racines qui poussent là, et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Comprenant bien que Dieu est d'une vertigineuse immensité. Et c'est pour ça que le grand apôtre Paul, j'aurais toujours aimé le rencontrer lui. Incroyable, comme 13 livres du Nouveau Testament qu'il a écrit sur les 27. Si on rajoute Hébreu, où on ne sait pas qui a écrit, mais enfin voilà, on pourrait même dire 14, j'en sais rien. Mais Paul commence son texte, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. C'est pas Seigneur, tu as besoin de moi, tu vois comme je suis fort, la puissance que j'ai. Non, il s'agenouille devant le Père. Il s'agenouille. Verset 14, Paul dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Fléchir les genoux mène à expérimenter l'amour du Christ. C'est plus que se laisser remplir la tête de belles et bonnes choses, de belles et bonnes informations. Qui est de taille à comprendre Dieu ? Personne. Personne n'a jamais vu Dieu, ce texte le dit. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Paul va dire, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour. Dans ce texte d'Éphésiens 3, on est appelé à réaliser que comprendre la grandeur de Dieu mène à comprendre, à connaître, plutôt à expérimenter l'amour du Christ. Et dans Jean 14, on n'a pas le temps de lire ce chapitre, mais vous pouvez le noter quelque part sur votre smartphone ou sur un papier ou votre carnet si vous écrivez, prenez des notes, relisez Jean 14 si vous lisez ce texte. Vous découvrirez qu'aimer Christ mène à connaître l'amour de Dieu. Dans sa lettre aux Éphésiens 3, 14 à 21 que j'ai lu, l'apôtre Paul explique qu'en méditant sur cet amour de Dieu manifesté en Christ, eh bien on s'ouvre au meilleur, à la plénitude de Dieu. Et dans cette lettre, Paul dit eh bien, qu'on peut saisir la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour du Christ et qu'ainsi on pourra, grâce à l'Esprit, être rempli de la plénitude de Dieu. Rien de moins. Souvent, on aimerait la puissance, on aimerait les dons, on aimerait ces choses-là et c'est juste et c'est bon et Dieu nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais là, Paul va dire, tu aspires à ces dons, tu aspires à cette puissance, tu aspires à voir des miracles et des signes, ben, plie les genoux devant Dieu. Sois fondé et enraciné dans son amour. Et tout le reste va découler de ça, cette relation. Tout le reste. Parce que finalement, eh bien, tu es en Christ et Christ est en toi. Il y a cette unité dans l'esprit. Explorons ces quatre dimensions rapidement de l'amour de Dieu manifesté en Christ sur la croix. Qu'on trouve dans Éphésiens 3, 18. La largeur de l'amour du Christ, déjà, cette largeur. La largeur de l'amour du Christ peut être rapprochée à la barre transversale de la croix. Cette largeur. Imaginez quand Christ a été cloué à la croix, ou c'était peut-être comme ça parce qu'il était... Quand Christ est la largeur. Les bras de Christ qui sont ouverts comme pour aussi accueillir toute l'humanité. C'est pas fermé comme ça, où il vient devant vous et puis vous ne pouvez pas vous approcher de lui, non. Il y a cette largeur pour vous accueillir, pour vous accueillir. Et ce matin, il vous dit, mais viens, je suis là les bras grands ouverts. Cette largeur évoque l'universalité de l'amour du Christ et donc l'amour de Dieu. C'est une première chose utile à saisir, c'est même le point de départ à comprendre. Et Paul va dire, je m'incline, je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Votre nom vient de Dieu. Si vous êtes là, C'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu donne un nom à toute famille. Chacune est reconnue et aimée en tant que telle, prise en compte, valorisée, aimée. L'amour du Père est pour toutes les familles dans les cieux, c'est-à-dire les générations passées aussi. L'amour du Père est pour toute famille de la terre, c'est-à-dire tous les humains vivant actuellement. Ça ne veut pas dire que tous sont en Christ, mais cet amour, il est pour tous, même si tous ne le reçoivent pas. Et grâce à cette notion de famille, l'amour de Dieu est donné aux individus. C'est aussi pour ça qu'il nous rassemble aussi dans des familles, mais aussi en Église. Souvenez-vous que il nous est dit d'aimer nos femmes aux hommes comme Christ a aimé l'Église. Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte. Deuxième dimension, il y a première dimension, cette largeur de l'amour de Dieu. Deuxième dimension, la longueur, qui évoque aussi la patience. L'amour de Dieu, c'est une espérance et une patience de Dieu qui nous aime pour ce qu'on pourra éventuellement devenir si on le veut bien. Cette patience, cet amour en longueur nous libère aussi de toute crainte face à Dieu. C'est sur la durée. Dieu vous aime sur la durée. Sur la durée. Même si on était complètement mauvais, même si on était plus nuisible que créateur, ça n'empêcherait pas Dieu de nous compter comme son enfant grâce à sa largeur et d'espérer en nous dans l'infinie longueur de son amour. D'espérer pour nous une élévation, d'espérer eh bien, le meilleur. Si on ne franchisse pas, eh bien, on peut ainsi, peu à peu, eh bien, se supporter déjà soi-même et supporter les autres et espérer en eux, aimer les autres, espérer aussi en nous-mêmes. Troisième dimension, la profondeur. La profondeur évoque ce qui est caché, ce qui soutient le tout finalement, les fondations. C'est la partie de la croix qui enterre et qui permet de la tenir en place. Ce qui va permettre que ça ne s'écroule pas. Ça me fait penser aux icebergs. Je pensais que les icebergs, il y avait deux tiers sous l'eau et un tiers sur l'eau, mais je me suis largement trompé. 92% du volume d'un iceberg est situé sous la surface de l'eau. 92%. Pour un grand iceberg dont la hauteur apparente hors de l'eau est de 35 à 40 mètres, la partie immergée peut descendre jusqu'à plus de 300 mètres sous le niveau de la mer. Et cette dimension de la profondeur, c'est l'amour avec un A majuscule qui est la source de tout amour. Cette dimension de la profondeur, finalement, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est ce dont témoigne Jésus quand il dit à ses disciples, avant d'être arraché à eux, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » C'est dans Jean 15, verset 9, pour ceux qui prennent des notes. Et c'est parce qu'il est enraciné dans l'amour de Dieu que le Christ a l'idée et la force d'aimer et de servir. Comme on l'a dit, personne n'a jamais vu Dieu parce qu'il est cette dimension de la profondeur que nul ne peut voir. Mais elle est bien réelle pour autant. Elle précède même tout ce qui existe, tout ce qui est visible. Elle soutient même la possibilité d'aimer et d'exister. Le Christ rend visible sur la croix cette réalité profonde de Dieu. Il va le manifester par son existence, par ses paroles, par ses actes, en assumant jusqu'à la croix. Et finalement, quatrième dimension de l'amour de Dieu, la hauteur. La hauteur, c'est une invitation à reconnaître que l'amour de Dieu nous dépasse et que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes même pas Christ. Il est la tête du corps dont on fait partie. Nous, l'humanité, sommes membres d'un même corps dont Christ est la tête. Et dimanche passé, vous avez entendu parler des dons et l'importance aussi. Et l'importance aussi d'une tête. La hauteur, c'est voir les choses d'un peu plus haut qu'au ras des pâquerettes, un peu plus haut qu'au ras de notre désir, que notre seul nombril. C'est prendre la hauteur. Connaître l'amour du Christ, c'est être en communion avec lui, comme la tête et en communion avec la main lorsqu'on a besoin d'être gratté. Paradoxalement, c'est en s'inclinant devant cet auteur eh bien, qu'on peut être élevé. Ce n'est pas en cherchant à prendre la hauteur soi-même, mais c'est en s'inclinant, en reconnaissant qu'il est tout, qu'il est toutes les dimensions. Comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. En reconnaissant que la hauteur du Christ vaut mieux que la nôtre actuellement, qu'on entre dans cette relation qui nous élève et qui nous fait dire non seulement à Dieu, et qui fait dire non seulement à Dieu mon Père, mais notre Père qui est aux cieux, notre Père. Connaître ou reconnaître l'amour de Dieu nous fait réaliser toutes ces choses et finalement nous fait entrer eh bien, dans une nouvelle dimension aussi, ce Dieu de l'impossible. Et c'est là qu'on arrive au verset 20 et 21 d'Éphésiens 3. « Or à celui, c'est-à-dire Dieu, qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui, la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Dieu nous élève alors qu'on s'est abaissé. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Ça prend un peu plus de temps. Ça demande l'humilité. Ça demande de s'abaisser. Beaucoup connaissent des choses sur Dieu, c'est bien, mais c'est mieux de connaître Dieu lui-même et d'exprimer l'amour, d'expérimenter l'amour de Jésus-Christ. Vous pouvez étudier toute la science que cette terre propose. Vous pouvez faire tous les instituts bibliques que cette terre compte. Vous pouvez faire vous inscrire à toutes les unis, vous saurez plein de choses sur Dieu. Mais ça ne remplacera pas ce cœur à cœur avec Dieu, cette expérience. Cette expérience. Vous pouvez savoir que tout à l'heure, il y a un bon repas qui vous attend. Ou un pique-nique pour ceux qui vont à la marche. Ou... Magnifique. Mais tant que vous ne vous y rendez pas, vous ne saurez pas combien ce repas est bon. Tant que vous ne le mettez pas dans votre bouche. Tant que vous ne vivez pas cette marche, cette communion avec les autres, vous pourrez dire c'est super ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, c'est génial. Mais tant qu'on ne participe pas, qu'on n'est pas avec les autres, finalement on sait que c'est bien. Les autres nous le disent, mais on ne l'a pas vécu. Si le magnifique repas qui vous attend, eh bien vous ne le mangez pas, allez dire qu'est-ce qui sentait bon, il y a encore peut-être un sens qui... Mais ça ne va pas vous nourrir. Ça ne va rien faire. Et c'est comme cette relation avec Dieu. Alors je vous encourage à fléchir les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom. Je vous invite à connaître toutes ces dimensions de l'amour de Dieu, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et finalement, de vous dire que toute cette soif eh bien de résultats, de bénédictions, de victoires, de guérisons, et combien j'aspire à avoir plus de guérisons, toute cette soif va être comblée même au-delà de ce que vous pensez imaginer. C'est les versets 20 et 21. Parce que celui, la puissance qui agit en vous va faire même au-delà. Au-delà. Et je lisais dans Jean 14 ce matin encore, dans Jean 14, que Jésus va dire, mais qu'on ferait même, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers mon Père. Mais ce n'est pas en disant juste au nom de Jésus que ça va se passer. C'est en expérimentant cet amour et en pliant les genoux devant Jésus. en se laissant remplir et visiter. Amen. Amen. Peut-être ce matin, certains ont envie de plier les genoux devant Jésus. En tout cas, on a tous cette invitation à pas juste connaître des choses, connaître comment on loue Dieu, connaître certains versets de la parole. Mais juste à venir dans sa présence. Ce matin, tu as cette invitation à dire, mais oui, je veux m'approcher de lui, reconnaître sa majesté, sa grandeur, ses quatre dimensions aussi. Ce Dieu qui me dépasse bien largement. Je veux passer ce temps avec Jésus. Je veux me laisser visiter. Je veux me laisser rencontrer. Ce matin, tu reçois cette invitation, mon frère, ma sœur. À part rechercher ses dons, sa puissance, mal rechercher lui, le donateur. Et c'est alors que tout le reste va t'être accordé. Va t'être accordé, tout simplement. Même au-delà de ta petite compréhension humaine, au-delà, qui peut faire au-delà de tout ce que tu penses. Ben Jésus, tu connais notre cœur, tu connais mon cœur, tu connais notre soif ou au contraire notre manque de soif de ta présence. Un Seigneur, augmente notre soif, augmente ma soif, Jésus. Aide-nous à t'aimer, Jésus, comme tu nous aimes. Aide-nous à plier le genou devant toi, à reconnaître ta majesté, ta seigneurie. Aide-nous à voir ton immense grandeur et ainsi à prendre de la hauteur avec toi, à se dire, mais mon problème devient bien plus petit face à l'énorme grandeur de mon Dieu, la profondeur, la largeur. Ces quatre dimensions. Finalement, mon problème est tout petit. Parce que j'ai un Dieu tout grand. Qui m'invite juste à lui faire confiance et à venir dans sa présence. Seigneur, accorde-nous ta sagesse, ta grâce. Et Seigneur, cette volonté de plier le genou spirituellement devant toi. Au nom de Jésus-Christ, amen.